France Culture. France Culture. Les midis de culture. Chloé Cambrelin.
Bonjour et bienvenue dans les midis. Aujourd'hui en compagnie d'un dessinateur qui cherche à comprendre ce qui fait qu'il se sent méditerranéen. Dorel, puisqu'il s'agit de lui. Nous connaissons les dessins de presse dans Le Monde, Politis, désormais exclusivement dans Le Canard Enchaîné. Nous nous souvenons de Joseph, film dessiné, césarisé, consacré à l'artiste et combattant antifranquiste Joseph Bartoli, et déjà d'une enquête dessinée nourrie de sciences sociales, singes, quel genre d'animaux sommes-nous ? Cette fois, c'est donc sur une couverture tout en nuances de bleu que s'écrit le titre d'une nouvelle BD documentaire, Méditerranée, histoire d'un continent kaléidoscope. Précisons tout de suite qu'histoire est au pluriel. Bonjour Aurel.
Bonjour.
Et merci d'être avec nous. On l'a tour à tour appelé la mer, la grande mer, puis notre mer, à mesure que le territoire géographique de ceux qui la nommaient s'accroissait. Elle fut la mer des Romains pour les Arabes, la mer Blanche pour les Turcs, ou la mer intérieure pour Pline, puis finalement Méditerranée à partir du 7e siècle. Berceau de l'agriculture, des alphabets, des trois grandes religions monothéistes, duale, occidentale, orientale, celle des Phéniciens ou des Étrusques, des Grecs ou des Romains, de l'islam ou de la chrétienté. Aujourd'hui, la riche du Nord et la pauvre du Sud, celle qu'on fuit et celle dont on rêve, celle que les riches habitent et celle qu'ils voient exotique, fatiguée d'avoir tout. Dans la même eau, certains se baignent et d'autres se noient. Ainsi commence votre bande dessinée publiée chez Futuropolis, Aurel, après une scène d'ouverture que nous laisserons les lecteurs et lectrices découvrir. Vous vivez, Aurel, à Montpellier.
Tout à fait.
Vous avez grandi en Ardèche. Pas avec la mer à portée de regard au quotidien, donc. Et pourtant, quelle était votre Méditerranée enfant ?
La Méditerranée enfant, c'était une Méditerranée de vacances, d'été. Et je pense que c'est ça qui a fortement participé à ce sentiment méditerranéen, c'est que c'est baigné d'une nostalgie d'enfant et en même temps sur un temps très court, donc qui accentue ça, c'est-à-dire c'était pas la normalité non plus, c'était pas le quotidien, les odeurs de pain, l'iode, tout ça, il y a un souvenir comme ça de bons moments d'enfance, mais très circonscrit à une petite période. Mais par contre, oui, j'ai grandi en Ardèche. L'Ardèche est un département lui aussi assez dual, avec une partie très montagneuse, la montagne ardéchoise, avec ce qu'on appelle l'Ardèche au beurre, et puis une Ardèche plus méridionale, où moi j'ai grandi et j'ai passé mon enfance, mon enfance dans la garrigue, pour le coup, donc vraiment dans un univers méditerranéen, sec, de calcaire, avec des cigales, etc. Donc il y avait cet environnement, si ça n'était pas la mer, c'était en tout cas un environnement méditerranéen.
Parce que la mer ne commence pas sur le rivage, enfin la Méditerranée en tout cas, elle commence peut-être justement à cet endroit qui est en effet celui où vous avez grandi et c'est représenté dans la bande dessinée et où, je vous cite, on passe sans s'en apercevoir de la garrigue aux Cévennes.
Oui, tout à fait. Oui, c'est le village où j'ai grandi, Lévance pour ne pas le citer, dans le sud d'Ardèche. Qui est aux confins du Gard et de la Lozère aussi. C'est vraiment un endroit très particulier où, selon la route qu'on prend pour sortir du village, on file dans la garrigue où on monte une route sinueuse dans les vallées Cévenoles. Donc on est vraiment entre ces deux endroits. Et moi-même, mon enfance se partageait, je vivais côté garrigue, mais mon enfance se partageait entre ces deux lieux.
Et il y a donc une première route que l'on suit dans votre livre, Petite Rigole, qui coule dans le Bourdaric, qui rejoint le Chassezac, qui s'abandonne dans l'Ardèche, qui se jette dans le Rhône. Cette question des circulations et des échelles, elle est très importante dans le livre. Et évidemment, le dessin vous permet de la rendre.
Oui, il y a eu plein d'intentions qui m'ont ou d'envies qui m'ont amené à me plonger dans ce livre. Mais en effet, ce que j'aime quand je me lance dans un projet comme celui-là, c'est de savoir que le dessin va porter beaucoup de l'information et du de ce que je veux passer. Quand on est dessinateur, on n'est pas forcément hyper à l'aise devant un micro ou devant une caméra, et c'est pas forcément par l'oralité que les choses passent. Mais c'est plutôt je vais vous faire un dessin pour vous raconter. Je préfère vous faire un dessin. Et là, c'était typique, c'est-à-dire qu'on peut parler de tous ces petits ruisseaux, mais ça me parle pas plus que ça, ou en tout cas ça ne parle pas aux gens qui ne les connaissent pas. Mais si on les dessine, on peut partir d'un filet, un tout petit filet bleu, et puis que le trait s'épaississe au fur et à mesure pour arriver sur l'immensité bleue de la Méditerranée.
Et si on fait comme vous le faites aussi, si on représente la Méditerranée, je parlais des échelles, la Méditerranée en avion qui est un tout petit point bleu, la Méditerranée en bateau à vapeur qui est un peu plus grande, et la Méditerranée à la voile qui devient rentre pas immense. Dans la double page. C'est ça.
Ouais. Oui, c'était. J'avais même pensé, mais ça, je l'ai même pas dit à mon éditeur, et je pense que ça aurait été niette de toute façon, mais de faire des pages qui se déplient pour montrer l'immensité de cette partie de la Méditerranée à la voile, parce que c'est en effet, on est sans arrêt dans du changement d'échelle, et c'est ça qui est passionnant à tous les niveaux, au niveau graphique, mais au niveau aussi de la lecture, de cette histoire ou de cette culture.
Alors, comme son objet, un continent kaléidoscope, votre ouvrage a différentes facettes. Il y a une part intime, il y a les entretiens que vous menez, nous allons y venir. Il y a de nombreuses cartes et il y a un récit d'abord uniquement en images qui surgit par moments sur une double page, puis un peu plus, et dont nous comprenons la nature au fur et à mesure, le parcours d'un exilé, nous y reviendrons aussi. Je l'ai rappelé en introduction, et là vous venez d'en parler aussi un peu, vous travaillez sur différents supports. À quel moment savez-vous, décidez-vous que ce sujet-là, c'est une BD documentaire, que vous avez besoin de plus de 200 pages, que vous avez besoin de 2-3 ans pour la faire?
C'est le premier point de départ, si j'ose dire, c'est à partir de quand ça devient une nécessité de faire quelque chose de toutes ces envies. Mais après, j'ai la chance de pouvoir travailler sur plusieurs supports. Là, on est sur de la bande dessinée documentaire en l'occurrence. Je fais aussi du travail dans le cinéma avec Joseph, puis d'autres projets ou de l'audiovisuel, et dans la presse, je peux faire par exemple des reportages dessinés, ce qui m'arrive de faire aussi régulièrement au Canard Enchaîné. Donc c'est des différentes manières de raconter des choses, mais très vite je sais, quand j'ai un projet en tête, vers quelle destination je vais aller avec ce projet-là, et c'est rare que ça change. C'est vraiment intrinsèquement lié, le fond et la forme, enfin l'envie et la forme. Que ça fasse 224 pages, ça c'est j'arrive auprès de mon éditeur Alain David chez Futuropolis, et on parle de mon sujet, je lui dis je pense que ça va être assez long, j'ai tel sujet abordé, et je commence à faire un petit chemin de fer qui liste à peu près les gens auxquels je pense m'adresser, et on sait que ça va être un livre d'une taille certaine, et on fixe très vite le nombre de pages, et c'est ça ensuite il faut rentrer dans ce nombre de pages,
c'est dans ce sens-là,
on avance jusqu'à ce que dire j'ai plus rien à raconter de plus, et donc je m'arrête là. C'est, on sait qu'il faut que ça rentre dans 224 planches.
Création sous contrainte.
Oui, c'est
vous y êtes habitué en même temps.
Ouais, voilà, la contrainte c'est un peu notre quotidien. Ouais.
Alors, le dessin, donc, qui vous permet de rendre les choses qui vont aussi avec le propos, évidemment, c'est tout l'intérêt de ce format. Et il y a au début ce dessin que vous faites de la mer Méditerranée en effaçant, comme vous le dites, les terres, les traits de côte, juste la mer. Qu'est-ce que l'on voit lorsqu'on fait ça avec la Méditerranée?
Alors, possiblement, on le voit avec d'autres mers aussi. La Méditerranée a cette particularité d'être... je ne suis pas préviens d'emblée, je suis pas géographe, je suis pas historien, ce ne sont pas mes spécialités, donc peut-être que je dirais des choses qui sont pas très justes, mais en tout cas c'est mon ressenti. Mmh. La Méditerranée est une mer, c'est ce qui pourrait être un océan puisqu'elle sépare des continents. C'est une mer qui est assez fermée, mais qui a une forme très particulière et qui est constituée de plein de petites mers. Donc ça lui donne un aspect très original, moi je trouve, et surtout où on peut voir plein de choses. C'est-à-dire que c'est comme quand on regarde les nuages, où on peut voir des formes dans les nuages. La Méditerranée, ben, on est habitué surtout à la voir toujours dans le même sens, celle qui est orientée avec le nord en haut. Mais si on la fait tourner,
on peut faire d'autres choix, voilà.
Exactement, on peut la faire tourner. Il y a une fameuse carte dont j'ai oublié le nom de la cartographe qui l'a dessinée, mais où l'ouest est en haut et ça lui donne un aspect tout à fait. On ne la reconnaît pas, tout simplement, et ça met en lumière notamment le côté très 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 étroit du canal de Sicile et de la Sicile qui vient faire un bouchon entre la partie ouest et la partie est, ce qu'on ne voit pas vraiment dans les figures habituelles. Et là, moi, j'y vois un petit lutin qui danse, par exemple. Mais j'aimais bien l'idée de cette forme complexe que j'ai appris à dessiner presque par cœur à force de le faire, mais qui que je compare à un motif répétitif comme chez certains peintres.
Vous citez Claudia là, par exemple.
Par exemple. Ouais.
Et alors, je ne sais pas si c'est elle que vous pensez en particulier, mais parmi les personnes, en tout cas, qui représentent effectivement la Méditerranée tournée, orientée autrement, il y a Sabine Rétoré, notamment, qui est une artiste cartographe qui fait ça, effectivement, pour donner une matérialité au décentrement, en fait, à la pluralité des points de vue. Alors, vous l'avez dit, et on le sait, vous n'êtes pas géographe, vous n'êtes pas historien, mais vous enquêtez, donc vous lisez, vous questionnez, et bien sûr, lorsqu'il s'agit de la Méditerranée, on pense tout de suite à Fernand Braudel, ici lu par Emmanuel Laurentin.
Dans ce livre, les bateaux naviguent. Les vagues répètent leurs chansons. Les vignerons descendent des collines des Cinque Terre sur la riviera génoise. Les olives sont gaulées en Provence et en Grèce. Les pêcheurs tirent leurs filets sur la lagune immobile de Venise ou dans les canaux de Djerba. Des charpentiers construisent des barques pareilles aujourd'hui à celle d'hier, et cette fois encore, à les regarder, nous sommes hors du temps. Ce que nous avons voulu tenter, c'est une rencontre constante du passé et du présent, le passage répété de l'un à l'autre, un récital sans fin conduit à deux voies franches. Qu'est-ce que la Méditerranée ? Mille choses à la fois, non pas un paysage, mais d'innombrables paysages, non pas une mer, mais une succession de mers, non pas une civilisation, mais des civilisations entassées les unes sur les autres. Voyager en Méditerranée, c'est trouver le monde romain au Liban, la préhistoire en Sardaigne, les villes grecques en Sicile, la présence arabe en Espagne, l'islam turc en Yougoslavie. C'est plonger au plus profond des siècles jusqu'aux constructions mégalithiques de Malte ou jusqu'aux pyramides d'Égypte. C'est rencontrer de très vieilles choses encore vivantes qui côtoient l'ultramoderne. À côté de Venise, faussement immobile, la lourde agglomération industrielle de Mestre. À côté de la barque du pêcheur qui est encore celle d'Ulysse. Le chalutier dévastateur des fonds marins ou les énormes pétroliers. C'est tout à la fois s'immerger dans l'archaïsme des mondes insulaires et s'étonner devant l'extrême jeunesse de très vieilles villes ouvertes à tous les vents de la culture et du profit et qui, depuis des siècles, surveillent et mangent la mer. Tout cela parce que la Méditerranée est un très vieux carrefour.
France Culture, les midis de culture, Chloé Cambrelin.
C'est l'ouverture de la Méditerranée, l'espace et l'histoire. Fernand Braudel, bien sûr, vous le citez, Aurel, mais vous faites mieux que cela. Vous l'interviewez, oui, dans ce livre, Méditerranée, histoire d'un continent, Kaléidoscope.
Je l'interviewe, mais juste en réécoutant, je me disais, mais quelle écriture et quel plaisir à entendre déjà, mais à lire aussi. Et c'est un peu intimidant de se plonger dans un livre comme ça, en se disant que tout a été déjà si bien écrit de la part de Braudel, même si on peut interroger certains aspects. Mais c'est là où, pour revenir à votre question tout à l'heure, bah, le dessin a toute sa part, c'est-à-dire que la seule chose que moi je peux apporter de plus à tout ça, ou apporter une patte, une lecture différente, c'est d'amener l'image pour décrire ça et aider le lecteur à approcher ces questions-là.
pour qu'on comprenne un peu cette idée que vous l'interviewez, bon ça on peut le dire je pense, allez sur sa tombe et vous l'interviewez et ses réponses évidemment vous les écrivez à partir de ses écrits.
Tout à fait, c'est une adaptation de ses écrits, mais oui en effet je n'ai plus que ça, d'aller sur sa tombe et l'interviewer directement au Père Lachaise.
Alors, assez vite, en réalité, la question, l'objet de votre enquête devient qu'est-ce qui fait l'unité de la Méditerranée ? Existe-t-elle, cette unité ? Et ce que vous faites, c'est que Fernand Braudel, vous le mettez en débat. Mmh. En fait, vous allez voir d'autres historiens pour le discuter, voilà, et notamment un historien bien vivant, celui-ci, Patrick Boucheron, que vous allez voir au Collège de France.
Oui, tout à fait. Alors, paradoxalement, je ne vais pas tant voir Patrick Boucheron pour interroger Fernand Braudel, mais c'est lui qui m'amène à interroger Fernand Braudel. C'est lui qui m'en parle, même si j'avais déjà, avant qu'on se voit, j'avais déjà lu Fernand Braudel en partie, pas en intégralité, enfin pas tous ses ouvrages, mais sur la Méditerranée. Et c'est lui qui m'en parle, qui me dit évidemment il faut lire Braudel quand on s'intéresse à la Méditerranée, mais il me dit mais attention, il faut lire Braudel en le remettant dans son époque, c'est-à-dire que comme toute époque, elle a ses angles morts, elle a ses biais de lecture sociétaux contemporains, et donc cette fameuse unité de la Méditerranée, eh ben elle est interrogeable au titre du fait que c'est un concept qui vient souvent de l'Europe occidentale, donc du nord de la Méditerranée, et qu'on ne peut pas enlever le fait qu'il y a un biais de lecture colonialiste dans cette vision unitaire. En tout cas, il y a cette vision unitaire de penser la Méditerranée comme un tout risque porter en elle les germes du colonialisme.
Et il y en a un qui va encore un peu plus loin là-dedans et qui d'une certaine manière vous donne le sous-titre avec ce mot de kaléidoscope, c'est Guillaume Calafat qui est spécialiste de la Méditerranée, que vous rejoignez à Malte et qui lui aussi a beaucoup de méfiance vis-à-vis de cette idée de unité et qui parle davantage de fragmentation.
Oui, c'est comme vous avez cité l'album Singe tout à l'heure. Moi, ce que j'aime dans ces travaux-là, c'est d'arriver avec des envies, des intuitions, mais pas plus de connaissances que tout un chacun qui aurait lu Braudel sur la Méditerranée ou un primatologue sur les singes. Et sur les singes, la première personne que je suis allé voir, c'est Vincent Després. Et Vincent Després, j'arrive avec mes petites questions du genre l'observation des singes, déjà qui est un terme critiquable, le terme de singe, mais nous apprend sur nous humains. Et alors, elle, avec toute sa franchise et son franc-parler, elle me dit que ma question est totalement idiote et que c'est pas du tout comme ça qu'il faut aborder ce problème. Bon, bah, ce genre de personne permet de rebattre très vite les cartes et de repartir à zéro. Et j'aime bien partager ça avec le lecteur parce que ça nous met tous sur un pied d'égalité.
C'est ça, parce que ce genre de personne et tout, mais aussi le fait que vous soyez quelque part médiateur de ça et que vous vous assumiez en tant que dessinateur qui va poser des questions, etc., vous nous permettez aussi un accès un peu décomplexé, en fait.
Oui, parce que je suis au même rang que tout un chacun sur ces questions-là. Donc, moi, je prends. Quand Guillaume Calafat, surtout en effet, me dit attention vraiment avec cette recherche de l'unité de la Méditerranée, ça a été beaucoup fait déjà, c'est fait depuis longtemps par les historiens ou par des scientifiques divers et variés, ça a jamais donné grand chose, et puis c'est toujours, comme on le disait tout à l'heure, c'est toujours un peu empreint d'un risque en tout cas de vision coloniale.
Comment vit-on avec un voisin qu'on n'aime pas forcément ? La Méditerranée nous apprend ça, nous amène à étudier ça, vous dit-il. Qui formule l'unité et à quelle fin ? C'est la question et la discussion se poursuit avec un autre historien, Mamed Waldi, professeur à l'Institut universitaire européen à Florence, en Italie, qui vous explique aussi effectivement que son problème avec même avec la notion de Méditerranée, c'est qu'elle est utilisée par des historiens d'Europe méditerranéenne qui s'occupent pas forcément de ce qui se passe de l'autre côté de la mer. Mais quand même, lui, en revanche, il vous entend quand vous dites que, mais moi, je me sens méditerranéen. Simplement, ce qu'il vous dit, c'est pas scientifique, c'est une question d'affect, en fait, ou de sensibilité, de...
Oui, c'est ça. Il m'enlève une grosse épine du pied, Mahmoud Waldi, dans cette discussion, parce que même si avec Guillaume Calafa, qui lui aussi a quand même des attaches méditerranéennes et qui donc comprenait, on pouvait discuter, il tenait vraiment à ce qu'on se méfie de cette vision unitaire, mais on pouvait trouver des terrains d'entente, bien évidemment, sur des termes plus autour de la créolisation, du fait du vivre ensemble avec des cultures différentes, etc. Mais Mahmoud Waldi éclaire le débat d'une autre façon encore, en disant, si on cherche du côté scientifique, évidemment qu'il y a ce risque de lecture européo-centrée avec ce germe de colonialisme derrière. Mais sur le ressenti, sur l'émotion, c'est une évidence, la méditerranéité. Et donc, la science ne peut pas répondre à cette question. L'émotion ne peut pas définir non plus exactement ce que c'est que la méditerranéité, mais il y a une évidence de vie, d'expérience méditerranéenne.
Dans ce bassin où jouent des enfants aux yeux noirs, il y a trois continents et des siècles d'histoire. Des prophètes, des dieux, le Messie en personne. Il y a un bel été qui ne craint pas l'automne en Méditerranée. Il y a l'odeur du sang qui flotte sur ses rives et des pays meurtris comme autant de plaies vives. Des îles barbelées, des murs qui emprisonnent. Il y a un bel été ne crains pas l'automne en Méditerranée. Il y a des oliviers qui meurent sous les bombes, là où est apparue la première colombe. Des peuples oubliés que la guerre moissonne. Il y a un bel été qui ne craint pas l'automne en Méditerranée. Dans ce bassin je jouais lorsque j'étais enfant. J'avais les pieds dans l'eau, je respirais le vent. Mes compagnons de jeu sont devenus des hommes. Les frères de ceux-là que le monde abandonne en Méditerranée. Le ciel est endeuillé par-dessus l'acropole, et liberté ne se dit plus en espagnol. On peut toujours rêver d'Athènes et Barcelone. Il reste un bel été qui ne craint pas l'automne en Méditerranée.
Je Georges Moustaki, En Méditerranée, c'est une chanson de 1971, donc c'est encore la dictature des colonels en Grèce et le franquisme en Espagne, voilà, pour éclairer ce qu'il dit à la fin. Cette chanson, c'est un autre de vos interlocuteurs, je crois, qui vous l'a fait découvrir, Aurel.
Oui, c'est Louis-Jean Calvé, linguiste, que je suis allé voir après avoir lu un livre magnifique et très intéressant qu'il a écrit, qui s'appelle « Méditerranée, mère de nos langues », où il, dans ce livre, en fait, il répondait à une des thématiques que j'avais choisi d'aborder, qui est un des découpages qu'on peut faire autour de la Méditerranée à travers les langues et l'histoire des langues. Et puis il a mis en lumière autre chose que je n'avais pas tout à fait en tête au départ, que la Méditerranée est aussi le berceau, entre autres choses, de l'alphabet. Et donc c'est un entretien passionnant. Et à la fin, je lui demande comment lui, si lui se définit comme méditerranéen, et comment il définirait sa méditerranéité. Et il est aussi un grand amateur de chansons françaises et a été ami avec Moustaki et Léo Ferré. Et comme réponse, il m'a donné cette chanson de Moustaki qui est en effet parfaite.
Et ce qui est très beau parce que... Par ailleurs, je veux dire, il a un propos très savant, justement, sur comment les langues ont voyagé. Ça donne aussi d'autres cartes et d'autres voyages et d'autres récits. Donc, il a un propos très pointu. Et en même temps, sa réponse à qu'est-ce que Méditerranée, c'est cette chanson.
Bah oui, parce que c'est la magie et l'art de la chanson quand c'est bien fait. En quelques phrases et quelques images, on arrive à définir très précisément, en l'occurrence, ce qu'est la Méditerranée.
Et puis, il vous sert une tarte aux abricots, il vous raconte l'histoire du mot abricot, et ça, c'est juste aussi pour faire un peu le lien avec une part importante. Il vous parle de l'olivier, c'est aussi une manière de concevoir une unité méditerranéenne, finalement, la culture de l'olivier. Et donc, ça apporte une dimension qui est quand même importante aussi dans ce livre, c'est la nourriture, l'alimentation.
Oui, parce que si on revient à ce qu'on disait autour de l'unité de la Méditerranée, quand Guillaume Calafat, l'historien de la Méditerranée, parle de cet endroit qui est en fait une multitude, d'où l'idée de kaléidoscope, de mosaïque, d'une multitude de cultures différentes qui apprennent plus ou moins bien à vivre ensemble, à cohabiter de manière plus ou moins pacifique. Mais c'est ça le particularisme de la Méditerranée, c'est cette unité faite de diversité. Et la cuisine en est un bon exemple, dans le sens où il y a une espèce de panier méditerranéen que tout un chacun saurait à peu près décrire, fait de légumes qui ont des histoires très différentes, qui racontent aussi l'histoire des peuples méditerranéens. Et ce panier n'est pas si vieux en soi dans l'histoire humaine. Le panier méditerranéen n'est pas si vieux. Et de ces fruits et légumes en commun naissent tout un tas de recettes différentes d'un côté et de l'autre de la Méditerranée, et tout autour de la Méditerranée, mais en même temps avec des cousinages énormes. Donc, il y a plein d'échos comme ça, culinaires.
Et en même temps, avec des fausses pistes aussi, parce que il y a aussi votre grand-mère qui contredit un peu vos intuitions.
Ma grand-mère, elle contredit pas mes intuitions, elle contredit
ma construction
voilà, personnelle, et ce que j'ai projeté sur elle.
Sur la ratatouille et l'huile d'olive.
Exactement.
Mais c'est intéressant parce que mine de rien, il y a quand même, voilà, des choses qu'on pense méditerranéennes dont vous vous rendez compte qu'en fait, pas trop, quoi.
Oui, et en l'occurrence, ce que ça me permet d'interroger par un clin d'œil, donc à la fin de l'album, cette discussion avec ma grand-mère, c'est que ce qu'on se construit tout seul comme une culture qu'on pense inscrite en nous depuis des lustres, finalement, c'est vraiment une construction qu'on se fait et des idées qu'on se fait, puisque ma grand-mère, ce que je vois de méditerranéen à ma grand-mère et qui me rattache sans doute elle-même à une méditerranéité, bah, c'est pas, elle l'a pas depuis toujours, quoi.
Le dessinateur Aurel avec nous pour sa BD documentaire Méditerranée, histoire d'un continent kaléidoscope aux éditions Futuropolis. Nous vous retrouvons, Aurel, dans les midis de culture après le journal qui arrive. Et nous sommes aujourd'hui jusqu'à 13h avec le dessinateur Aurel pour sa bande dessinée documentaire Méditerranée, histoire au pluriel d'un continent kaléidoscope aux éditions Futuropolis. Nous avons parlé avec vous, Aurel, avant le journal de cette question d'une unité réelle ou rêvée de la Méditerranée, évoquée Fernand Braudel, Guillaume Calafat, Patrick Boucheron, celles et ceux dont les écrits ou les propos nourrissent votre réflexion et les pages de cet album. Nous parlions juste avant 12h30 de l'alimentation. L'une des origines de cette bande dessinée, Aurel, c'est une remarque que vous a faite un ami en 2015, l'historien archéologue spécialisé dans l'agriculture et l'alimentation, Guillaume Pérez Jorda. Qu'est-ce qu'il vous avait dit à ce moment-là ?
Alors c'était 2015-2016, on voyait à la télé, aux informations de nombreuses, des dizaines, des centaines, des milliers de civils fuyant la guerre en Syrie. Et il me fait cette remarque-là, il me dit ce qui est étonnant, remarquable, singulier, on peut le dire comme on veut, c'est que les voies que suivent ces gens qui n'ont pas les moyens modernes de la possibilité d'avoir les moyens modernes de voyager, suivent les mêmes voies que l'agriculture il y a des milliers d'années. Et c'est vrai que ça a été un des éléments déclencheurs à me dire, il y a vraiment quelque chose à raconter. C'était tout de suite une passerelle, c'était comme une machine à voyager dans le temps, une passerelle temporelle entre l'époque contemporaine, l'actualité et l'histoire de la Méditerranée.
Alors évidemment, cette question de l'exil, question du reste sur laquelle vous avez déjà travaillé, Joseph, ça parle aussi d'exil. Vous avez fait aussi des albums ou des reportages documentaires dessinés autour de l'exil. Évidemment que cette question, elle est là, dans cette question de la Méditerranée. Vous traitez ce sujet de l'exil, là encore par exemple avec l'historienne Delphine Diaz, mais aussi d'une autre manière, avec donc ce récit qui surgit comme ça par moment dans la BD, je l'ai évoqué au tout début. Je vous laisse décider là de ce que vous voulez en dire, de ce que vous voulez en dévoiler, mais voilà, qu'est-ce qu'on peut dire de ce récit-là ?
Ouais, c'est un récit, donc c'est le récit de voyage d'un personnage qui s'appelle Omar, qui est éthiopien et qui cherche à rejoindre son frère en Angleterre. Et donc il va parcourir la partie nord de l'Afrique. Il va devoir traverser la Méditerranée d'une manière ou d'une autre, et puis passer par la France, qui est en effet un lieu de passage pour atteindre les côtes de la Manche et l'Angleterre. Donc c'est une partie fictive dans ce livre qui est un documentaire. C'est un récit fictif que j'ai voulu fictif parce qu'il me permettait des libertés de narration et d'écriture, évidemment, mais aussi de rassembler tout un tas d'anecdotes que j'avais pu lire ou qui m'avaient été racontées sur ces exils forcés, enfin qui sont pas pour le pur plaisir, c'est pas des expatriés, et qui sont difficiles, qui sont semés d'embûches, qui sont dangereux. Et donc j'ai pu reconstituer un parcours type avec ses échecs, ses renoncements, ses recommencements. Donc c'est cette histoire que je raconte parce que quand j'ai voulu faire un album sur la Méditerranée pour toutes les raisons qu'on a exposées, il m'est paru inconcevable de parler de cette Méditerranée que je voulais parler et de la manière dont je voulais parler, sans évoquer ce qui est un des plus grands drames de notre époque, qui est cette espèce d'angle mort, encore une fois, où en tout cas, on ne veut pas voir le drame que représente l'exil. Et ce drame, on lui oppose, comme bien souvent, qu'une réponse sécuritaire et de barrière. Alors que le drame vient justement du fait de vouloir ériger des barrières, parce que la Méditerranée a été toujours une zone d'échange, un carrefour de navigation. Et à partir du moment où on empêche les gens de voyager sur les rives de la Méditerranée, ben ça produit des drames.
Alors là aussi, On est dans une BD documentaire, donc évidemment le dessin apporte quelque chose. Et ce récit du parcours d'Omar, même graphiquement, même visuellement, il tranche avec le reste de la bande dessinée, les couleurs. Voilà, on est dans beaucoup de bleu, de vert quand il s'agit de la Méditerranée, tout ce qu'on a évoqué plus tôt. Là, on est dans des couleurs sombres, rouges, noirs, marrons, et avec aussi des personnes. Alors au fur et à mesure, on comprend que Omar, mais au départ, des personnages qui sont aussi presque des silhouettes, quoi.
Oui, il y avait un côté, je voulais traiter cette partie dans l'urgence de l'exil, du peu de moyens, on dessine avec ce qu'on a, comme une suite à ce que j'avais pu faire dans Joseph, où j'avais essayé de me mettre dans ces pas de dessinateur dans les camps avec pas grand chose. Là, c'est pareil, c'est-à-dire que c'était des planches que je ne crayonnais pas. Je faisais un dessin direct avec un crayon noir, ce qui donne un côté très presque carnet de voyage, mais qui est une narration graphique. Donc il y a un enchaînement de cases, mais voilà, qui est très jeté en tout cas.
Et puis on peut y voir, ça c'est peut-être une interprétation en fait que vous partagez pas, mais on peut y voir aussi dans ces silhouettes à peine, enfin sans détail finalement, aussi tous ces visages justement qui n'ont, enfin toutes ces personnes qui n'ont pas forcément de visage, c'est-à-dire qui sont des...
C'est ça qu'on invisibilise et qu'on fait comme si c'était un tout, un ensemble, alors que bien évidemment, et c'est ce que je raconte à travers l'histoire de Omar, à qui je fais en plus porter, et ça je peux le dire, je fais porter une histoire un peu pédagogique de la Méditerranée pour ne pas alourdir mon enquête à moi, et je montre que Dans ces exilés, il y a de tout. Il y a des universitaires, des gens diplômés, des gens qui ne sont pas diplômés, mais peu importe en fait. C'est un ensemble d'individualités et il faut tous les imaginer comme tels.
Et l'histoire, c'est aussi l'histoire sensible, évidemment. Alors, Aurel, on l'a dit et on le sait, vous êtes dessinateur de presse. Justement, vous êtes habitué à réagir à l'actualité, à l'illustrer ou à la dire autrement. On le voit d'ailleurs, dans Méditerranée, il y a plusieurs moments où vous recevez des alertes. Alors à l'époque du Monde, pour vous dire est-ce que ça, bon. Est-ce que justement ces sujets-là de l'exil, des traversées de la Méditerranée, par rapport à 2015-2016, le moment où votre ami chercheur vous fait cette remarque, est-ce que on la voit encore beaucoup dans l'actualité? Est-ce qu'on vous demande encore souvent d'illustrer des dessins, des actualités qui ont trait à ce sujet-là?
Il y a une évolution dans mon travail, puisque aujourd'hui je dessine plus qu'au canard enchaîné, et donc il y a c'est plus des illustrations de sujets d'enquête, etc. Donc c'est moins lié à des sujets plus globaux, on va dire, de ce type-là. L'illustration de presse, on est à la merci donc des demandes des journaux. Donc je pense que c'est par ailleurs des thèmes qui sont très illustrés en photo. Donc quand on fait pas forcément appel aux dessinateurs pour parler de ces thèmes-là, sauf sur des sujets parfois très particuliers ou un peu plus magazine peut-être. Quand je dis magazine, c'est-à-dire plus long, des récits un peu plus longs. Mais non, c'est pas forcément un des thèmes qu'on dessine le plus. On propose, nous en tant que dessinateurs d'actualité, qui choisissons nos sujets politiques ou d'actualité qu'on envoie à nos rédactions, bien sûr que ça fait partie des thèmes, en tout cas moi, que j'essaye de placer souvent, mais c'est pas nous qui choisissons exactement tous les dessins qui sont publiés, parce qu'on en produit beaucoup et il y en a qu'une part qui est publiée.
Bien sûr. Alors, vous parliez du canard enchaîné, effectivement, maintenant vous n'êtes que, entre guillemets, au canard enchaîné.
C'est déjà beaucoup
et c'est pour une très bonne raison, qui est qu'ils vous ont proposé un CDI, ce qui arrive très rarement, et je renvoie là, on va pas avoir le temps d'y entrer parce que c'est un sujet trop complexe pour qu'on l'aborde très rapidement, mais je renvoie à une autre parution de janvier dernier, Charlie quand ça leur chante, c'est un tout petit format collection parole de Futuropolis dans lequel vous abordez la question du dessin de presse et des difficultés auxquelles il est confronté, économiques et
sociétales,
et pas seulement Voilà.
Todas las madres del mundo esconden su vientre, tiembla. Todas las madres del mundo esconden su vientre, tiemblan y quisieran retirarse a Virginia, ciegas y al origen solitario y al pasado sin herencia. Pálida y sobrecogida, la virginidad se queda. El mar tiene sed y tiene sed de ser agua en la tierra. Y el mar tiene sed y tiene sed de ser agua en la tierra.
Silvia Pérez Cruz, Todas las Madres del Mundo, c'était dans la bande originale de votre film Joseph. Aurel, on sait que vous l'aimez beaucoup, cette musicienne, que vous aimez sa musique. On la retrouve dans votre BD Méditerranée, histoire d'un continent kaléidoscope, aux côtés de deux autres chanteuses.
Oui, Yael Naïm et Emel Matlouti, en effet. C'était, j'avais envie de... on a évoqué le côté émotion, c'est-à-dire que c'est par l'émotion sans doute qu'on comprend le mieux cette unité méditerranéenne et qu'existe le mieux cette unité méditerranéenne. Et pour moi, l'art de l'émotion par excellence, c'est la musique. Donc j'ai choisi trois chanteuses qui représentent chacune une rive des continentales de la Méditerranée pour leur demander quels étaient leurs ressentis autour de la Méditerranée. Est-ce qu'elle se sentait méditerranéenne, parce qu'elles n'auraient pas été obligées de répondre oui, et si oui, comment elle définissait ça. Et c'était très intéressant d'avoir ces réponses à la fois différentes mais très similaires, très complémentaires. Et voilà, j'étais très heureux que cette question passe par une autre voie que la mienne, en tout cas.
Merci beaucoup Aurel. Méditerranée, histoire d'un continent, Kaléidoscope, votre bande dessinée documentaire est publiée aux éditions Futuropolis. On l'a cité également, Charlie, quand ça leur chante, collection Parole. On vous suit ce week-end au festival BD d'Oléron. Vendredi, il y aura aussi une rencontre au Vence, en Ardèche.
Et oui.
Voilà, vendredi
bon
prochain,
pays.
Dans une semaine, votre fameux pays dont vous nous avez parlé. Et le 13, dimanche 13, un concert dessiné autour de cette bande dessinée avec Raoul Réfray. Ça, ce sera au festival Détour du Monde qui se passe à
Saint-Enimi.
Merci beaucoup Aurel et
merci à vous.
À l'équipe des Midi, Aïssa Twindoy, à la programmation, Laurence Malonda, à la réalisation, Laura Dutèche-Pérez, Nina Gandara, Elisa Dejotte pour l'aide à la préparation, à la technique. Aujourd'hui, c'était Élise Leu.